Studio Tamani, voici les informations en français.
Mercredi 14 décembre 2022, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition matinale de Studio Tamani. Au sommaire, les activités de la Semaine nationale de lutte contre la corruption ont démarré ce mardi 12 décembre 2022. Initiée par l'OCLEI, cette semaine a pour but de sensibiliser sur les conséquences de la corruption. À cause de l'insécurité et du mauvais état des routes, les bateaux sont les recours pour certains de rallier le nord du pays. Comment se passe le voyage par bateau entre Mopti et le nord? Reportage à suivre dans ce journal. Culture, la 7e édition du festival Vivre Ensemble a débuté hier à Tombouctou. Plus de 200 festivaliers sont attendus à cet événement culturel. Les détails, c'est dans ce journal, présenté par Adama Amadou Haïdara, la mise en onde Mamadou Ouattara. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue. Sensibiliser la population sur les conséquences de la corruption et sur la prévention dans la lutte contre le phénomène, c'est l'objectif de la Semaine nationale de lutte contre la corruption qui se tient du 12 au 15 décembre 2022 au Mali. Elle est organisée par l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite OCLEI et c'est dans la mouvance de la Journée internationale contre la corruption célébrée le 9 décembre de chaque année. Point avec Ziad Tamaïga.
136e. Parmi les pays les plus corrompus, la corruption est une réalité au Mali. Et l'espoir suscité au début de cette transition pour faire reculer le phénomène s'anémuse, selon Moussa Ousmane Touré, président de l'association de lutte contre la corruption.
Au niveau des textes, il y a des failles sur cette transition. C'est des actions mitigées. Hein. Au début, les arrestations, les Maliens l'ont beaucoup apprécié. Après, des scandales ont éclaté que les gens qui ont promis de lutter contre la corruption, aujourd'hui, ils sont en train de la pratiquer.
De nombreuses structures de contrôle existent au Mali. Malgré tout, le phénomène continue de s'amplifier. Pour Mamadou Namori Traoré, ancien ministre et conférencier du jour, la multiplication des structures de contrôle ne suffit pas.
Il faut faire en sorte que les agents publics qui ont des responsabilités de gestion soient assujettis à la déclaration de biens. Faire en sorte que leur pouvoir discrétionnaire soit limité au strict minimum. Il faut que le public soit informé. Il y a beaucoup de structures de contrôle qui souvent se chevauchent.
Il faut rappeler que dans son rapport 2021, le vérificateur général a décelé plus de 50 milliards d'irrégularités financières. Des irrégularités relevées surtout dans les structures publiques.
8 heures passées de 3 minutes, toutes ces informations, vous pouvez donner votre avis là-dessus sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Comme annoncé dans les titres, la 7e édition du festival Vivre Ensemble a débuté hier à Tombouctou. Plus de 200 festivaliers sont attendus à cet événement culturel qui va durer 7 jours, signalent les organisateurs. Au programme, des prestations artistiques, des foires artisanales et des visites touristiques. L'objectif est de favoriser la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les populations. Salah Ameiga, directeur du festival Vivre Ensemble, il est au micro de notre correspondant Seinifai.
Et l'objectif du festival Vivre Ensemble depuis le début, c'est d'apporter plus d'émotions et de joie, mais aussi de contribuer au processus de paix partout au Mali et d'être un événement d'exemple pour les autres événements du Mali. Cette année, la 7e édition, après différentes de précédentes 6 éditions, et que cette année, nous invitons des villes. Nous invitons la ville de Mopti, la ville de Sikasso et la ville de Walata en Mauritanie. Donc deux villes de l'intérieur et une ville de l'extérieur. On invite aussi une cinquantaine d'opérateurs et acteurs culturels du Mali, en plus de ces villes, qui participent dans un atelier qu'on appelle la culture commune, qui nous amène sur la réflexion de comment faire des actions culturelles, des outils de développement économique des territoires communaux.
La campagne fluviale se poursuit pour la Comanav, le grand bateau Tombouctou, a pris son départ de Mopti pour Gao ce jeudi 8 décembre 2022. Ce bateau âgé de plus de 35 ans assure la navigation sur le tronçon Mopti-Gao. Il quitte le quai de Mopti rempli. Notre envoyé spécial Arkia Touré était à bord. Elle nous fait le point.
Il est 20h ce jeudi 8 décembre quand le bateau Tombouctou a abandonné les berges de la Venise malienne Mopti pour se diriger vers le nord du pays. À son bord, près de 200 personnes et 130 tonnes de marchandises et autres matériels, dont des véhicules. En cette période d'insécurité, ce bateau reste un espoir pour les ressortissants du nord.
Le tarif des bateaux est abordable, même si ce n'est pas facile. Mais il y a beaucoup de difficultés à emprunter les véhicules sur la route des Gao.
Les bandits sont sur les voies routières. En bateau, c'est plus rare.
Sinon, le voyage par bateau est très fatigant. Ça peut durer plusieurs jours.
Une sécurité assurée par les forces armées et de sécurité. Selon Issa Cissé, chef d'escale de la compagnie malienne de navigation à Mopti, sans les FAMA, il allait être difficile pour la Comanav de naviguer.
Dieu merci, aujourd'hui, je peux vous assurer que le bateau est le moyen le plus sûr au Mali. Parce qu'il n'y a aucun bateau qui quitte Aké sans qu'il n'y ait pas l'escorte militaire des FAMA que je salue au passage. C'est vrai, des années, on a connu des couacs, mais Dieu merci, cette année, en tout cas, tout roule.
Les bateaux est aussi l'un des moyens sûrs de ravitailler les régions de Tombouctou et Gao en cette période de haute eau. Mais les effets du changement climatique et la présence des rochers sur le tronçon rendent le trafic difficile, selon Humoud Oumar Maïga, pilote du bateau Tombouctou.
En plus de l'ensablement du fleuve, ce qui dérange réellement la navigation, ce sont les rochers, car ils occupent les voies. De Bamba jusqu'à Gao, c'est miné de rochers. Aussi, de Mopti, Bouna et Tondi Farma, c'est aussi des rochers. L'État doit agir.
Depuis le long du fleuve Niger, Arkia Touré pour Studio Tamani.
Toujours dans le nord du pays, à Nsongo, une trentaine d'éducateurs ont bouclé 10 jours de formation sur l'enseignement des enfants déscolarisés. C'était lundi dernier, 12 décembre 2022. L'objectif, selon les initiateurs, était d'ouvrir des centres d'éducation pour encadrer et former les enfants déscolarisés sur différents métiers professionnels. La formation a été organisée par le Centre d'animation pédagogique d'Nsongo sur financement de l'ONG TASAC. Et place à notre dossier de la semaine. Le monde a célébré le 10 décembre dernier le 74e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration stipule que tous les êtres naissent libres et égaux. Mais au Mali, l'esclavage par ascendance continue d'exister malgré l'interdiction de la pratique par les lois du pays. C'est dans la région de Kayes que le phénomène prend de l'ampleur malgré sa dénonciation par les organisations de défense des droits de l'homme et des associations internationales. Anti-esclavagiste. Mamadou Samasekou pour les détails.
Fils de l'une des victimes de cette pratique, Lassine Konati est le porte-parole de la cellule de Bamako de l'association Gambana, une organisation anti-esclavagiste. Il soutient que l'éveil des consciences ne conçoit plus ce genre de pratique.
Refuser d'être considéré comme esclave, je ne pense pas que cela soit une raison de mépris ou d'expulsion ou encore d'extrême violence. Ce message, on le fait à l'endroit des chefs de village. Ils ont beau gérer des parents ou des grands-parents, qu'ils sachent que les enfants de ceux-ci, qu'ils prétendent d'être des esclaves, ont aujourd'hui pris conscience de la situation. C'est pourquoi nous demandons aux autorités de se méfier des propos qualifiant l'esclavage comme faisant partie des us et coutumes. Loin s'en faut.
Des traditionalistes estiment qu'il s'agit plutôt d'abandonner les pratiques malsaines. Selon eux, il faut préserver certaines pratiques ancrées dans nos sociétés. Omar Kouaté, président du réseau des communicateurs traditionnels Récotrade de Kayes.
C'est une pratique coutumière vécue des siècles. Donc on ne peut pas du revers de la main balayer tout ça. Mais s'il y a des pratiques inhumaines dégradantes, on peut extraire ces pratiques-là et tout de suite revenir sur des bases saines. Alors, parce que notre société, elle est bâtie sur la reconnaissance des valeurs de l'autre aussi. Parce que nous avons été d'abord une nation avant d'être État. Alors, donc, nous devons cohabiter ensemble. Aujourd'hui, l'esclavage par ascendance et le conflit qui est lié à ça a tendance à disparaître.
La Commission nationale des droits de l'homme mène une lutte sans merci contre l'esclavage par ascendance. Pour la CNDH, le phénomène est une réalité et constitue un facteur de violence entre les communautés. Omar Touré, représentant régional de la CNDH, à Kayes.
Nous savons très bien que la pratique de l'esclavage par ascendance dans la région de Kayes est réelle et se manifeste malheureusement par des violences, des milliers de déplacés internes. Et nous avons cherché à ce qu'il y ait une loi criminalisant la pratique. Et actuellement, pour la relecture du code pénal, je crois que c'est pris en compte.
Le sociologue Foudjé Tandjougoura propose aux autorités l'affranchissement symbolique pour arriver à bout du phénomène. Il ajoute que les lois et autres actions judiciaires ne seront pas suffisantes face au phénomène.
Nous disons qu'il faut faire la promotion de l'affranchissement symbolique. On a vu ça dans certains villages à Kayes. Ceux qui sont considérés comme esclaves se réunissent, vont voir ceux qui sont supposés être leurs maîtres pour demander leur affranchissement symbolique. On paie des cadeaux rituels. La communauté maître accepte leur affranchissement et le problème est fini. Souvent, on donne même des enfants en mariage. La deuxième chose, c'est que même si on relit le code, ça ne suffit pas. Il faut sensibiliser en profondeur.
L'esclavage par ascendance est une pratique séculaire dans certaines régions du Mali, reconnaissent des observateurs. Mais ces derniers estiment qu'avec l'évolution du monde, tout doit être mis en œuvre pour arrêter le phénomène, faute de quoi il peut engendrer des conflits entre communautés.
Ainsi se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Toutes ces informations sont disponibles sur notre site web au www.studiotamani.org. Vous pouvez aussi appeler gratuitement sur Viamo au 37 321. Le magazine dans quelques instants, juste après la version Bambara avec Idrissa Sako. Depuis longtemps, les femmes entreprennent au Mali. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, la mondialisation, beaucoup souhaitent franchir les barrières. Cette expansion a un coût, car les institutions financières ainsi que les programmes d'appui demandent des garanties qui freinent souvent les ambitions. Certaines se tournent vers les tontines pour démarrer leurs activités. Le magazine Toutes les femmes du Mali d'aujourd'hui leur est consacré. C'est une réalisation de Mariam Koulibaly.
Madame Djitey a ouvert son jardin d'enfants à Bourem sur fonds propres selon elle. Depuis, c'est le CAP de Bourem qui l'aide à payer les enseignants et à construire quelques classes. Mais elle soutient que les femmes de la localité ne bénéficient pas d'appui de l'État et des ONG comme il le faudrait. Voici son témoignage.
Parce que le montage même des projets est extrêmement cher à Bourem. Les gens qui montent les projets là, ils montent les projets à 25 000, 30 000, 50 000, mais ça ne marche pas. Parce qu'on nous dit que notre zone est une zone en insécurité. Les femmes n'ont même pas accès au financement.
Je n'ai jamais reçu un appui financier de qui que ce soit. Ces propos sont de Teneba Sissouma. Elle, qui gère un salon de coiffure à Yoroso depuis plus de 5 ans, ne compte que sur les tontines pour s'en sortir.
Nous n'avons jamais reçu d'aide. Et quand les aides viennent, je n'ai jamais été citée. Je me débrouille ici. On doit pouvoir vivre de notre activité. Aucun projet n'est venu à mon secours. Nous souffrons beaucoup. J'espère que les autorités penseront en nous.
À Saint, Mme Kamate Karia Traoré, qui œuvre dans la transformation agroalimentaire, a eu plus de chance. En plus d'avoir eu un financement, elle a reçu des formations lui permettant de faire plus de profits.
Au début, je travaillais seule. On s'est regroupé entre femmes. Aujourd'hui, c'est une union des femmes du nom de Tchessiri. Un projet nous a soutenus avec des fonds et une formation. Au début, ce n'était pas facile, mais on a appris l'étude du marché.
Abemoko Fili Keita est la promotrice d'une start-up de transformation de céréales oléagineuses. Pour avoir bénéficié de plusieurs prêts, Madame Keita invite les femmes à croire en leur projet et à travailler dur.
J'ai bénéficié de l'appui financier du programme PGRI, qui était un crédit de 800 000 et que j'ai pu payer. Et là, on m'a fait une subvention de 700 000 avec l'intérêt de la banque. J'ai été retenue comme bénéficiaire au programme FACEJ, un crédit de 2 millions et une subvention de 2 millions. Les machines de transformation, nous avons pu acheter un extracteur d'huile, une décortiqueuse de sésame, un tricycle, deux séchoirs et beaucoup d'autres.
Le conseil régional de Sikasso a financé plus de 10 projets de groupement de femmes à Sikasso. C'était dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Pour M. Yegolit Mamadou Tembeli, responsable des services techniques du conseil, pour jouir de ces financements, le projet doit être viable et pérenne.
On accompagne les initiatives de transformation des produits agricoles de la région. Le montant de ces financements, c'est minimum 20 millions. Conseil régional prend les 80% du financement. Les promoteurs, puisque ce sont des groupements, prennent les 20%. Mobiliser ces financements, il faut que le projet soit économiquement viable. Les promoteurs de projets ont assez de difficultés à proposer des projets vraiment qui puissent être mis en œuvre sans grand problème.
Lors du lancement de ces activités le samedi dernier, les responsables du Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes FAFE ont affirmé avoir soutenu plus de 2000 femmes en 2021. Nos tentatives pour avoir plus de détails sur les actions que mène le FAFE n'ont pas abouti. Pourtant, beaucoup s'interrogent sur l'impact de tous ces programmes et institutions financières sur le financement des projets des femmes.